Zoom Secteur.
Zoom Secteur.
Un podcast, l'officiel de la franchise.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier hors-série du podcast Zoom Secteur. Ces épisodes spéciaux seront consacrés directement à des moments d'échange avec les enseignes. L'idée est de mieux appréhender un secteur d'activité et d'en connaître les spécificités grâce aux franchiseurs que nous recevons. Dans ce premier épisode hors série, nous avons le plaisir de recevoir le coprésident de l'enseigne Cash Express. Arnaud Guérin, bonjour.
Bonjour.
Zoom Secteur.
Zoom Secteur.
Choisissez le bon marché pour vous lancer.
Arnaud Guérin, nous avons réalisé il y a quelques semaines un podcast sur le marché de la seconde main. Quelle est aujourd'hui votre vision de ce secteur ?
Alors écoutez, notre vision aujourd'hui, c'est d'abord la vision d'un pionnier du marché de l'occasion, puisqu'on fêtera l'année prochaine notre 20e année d'existence. Et donc, nous avons naturellement vu ce marché non seulement se démocratiser, se décomplexer, et je pense qu'on peut considérer qu'on y a d'ailleurs humblement participé, mais avec effectivement une évolution notable au fil de toutes ces années, puisque au démarrage, il y avait indéniablement une prépondérance de l'aspect économique qui était écrasante. Hein. On était vraiment sur des commerces qui étaient quand même connotés commerces de fin de mois difficile, commerces où on pouvait effectivement booster son pouvoir d'achat. Malgré tout, il y avait déjà, dès l'origine, un deuxième volet qui était un volet plus ludique, qui concernait plutôt, on va dire, un marché de chineurs, de gens en recherche de rareté. Et aujourd'hui, on va dire que ces deux volets ont été rattrapés par un troisième aspect, qui est l'aspect écologique. Et aujourd'hui, clairement, le marché de l'occasion repose, selon nous, sur trois aspects, qui sont toujours ces fameux aspects économiques qui restent prépondérants, cet aspect ludique qu'on a évoqué juste avant, mais également aujourd'hui un volet indéniablement autour de la consommation responsable et l'écologie, qui est celui qui monte le plus en puissance et le plus rapidement en puissance aujourd'hui. Donc effectivement, on a noté qu'après une très forte mais progressive professionnalisation du marché, on a peu à peu vu disparaître tous les petits indépendants. Aujourd'hui, il n'y a plus quasiment que des enseignes nationales qui sont sur ce secteur. Mais on a vu également une diversification des canaux de distribution, notamment avec l'arrivée du digital et d'autres acteurs plus généralistes. Et aujourd'hui, on assiste à une espèce de révélation, d'évidence par rapport aux vertus de ce nouveau mode de consommation, de ces vertus qu'on a évoquées, donc l'économie, l'aspect ludique des magasins non aseptisés, l'écologie, le développement durable avec le recyclage, la recherche de l'anti-gaspi. Mais également, et ça c'est le point fort de magasins physiques comme les nôtres, c'est la mise en avant des circuits courts, de l'emploi de proximité. Et quand on parle de circuit court, on parle de circuit court à la fois sur le circuit du produit, mais également sur un circuit, plus budgétaire, financier pour les gens, puisqu'en achetant cash des produits localement, on injecte dans l'économie locale également de l'argent frais. Voilà.
Justement, quelles sont selon vous, au regard de ce que vous venez de dire, les perspectives sur les prochaines années ?
Alors, naturellement, les perspectives sont très importantes, hein, parce qu'après une forte montée en puissance, comme on vient de l'évoquer, et une maturation progressive, la prise de conscience, elle est aujourd'hui totalement unanime. Et nous, on a tendance à penser qu'on ne parle pas d'une consommation d'occasion qui serait simplement un effet de mode, mais plutôt vraiment un mode de consommation à part entière, voire prioritaire, puisque il suffit de regarder un petit peu le comportement des générations les plus jeunes, pour qui le réflexe de consommer a priori et en priorité d'occasion est complètement naturel. C'est la première chose à laquelle ils vont penser. Est-ce que je peux trouver le produit de mes rêves en le payant un petit peu moins cher et en étant sur un circuit plus vertueux, avant de me poser la question d'aller le chercher sur le marché du neuf? Donc pour nous, en parallèle de ces perspectives, l'enjeu, c'est surtout de démontrer que même si on est des pionniers, nous ne sommes pas has-been. Et c'est vraiment là tout l'enjeu. Mais bon, on n'est pas trop inquiet puisqu'on a quand même de sérieux atouts par rapport à ce marché plein de perspectives, à savoir bah, évidemment cette expérience de 20 ans, la maîtrise de nombreux outils qui continuent d'évoluer, des structures très adaptées pour rassurer la clientèle et valoriser on va dire sa consommation d'occasion. L'autre avantage sur notre positionnement par rapport à toutes ces perspectives, bah, c'est l'aspect généraliste de nos magasins, tout en étant sur des produits quand même relativement sensibles, pour lesquels bah, le fait de proposer une garantie est une vraie valeur ajoutée, contrairement à des marchés qui vont tourner autour du mobilier, par exemple, ou des vêtements, où là, le pendant du marché physique versus le marché digital est un peu plus délicat en termes de valeur ajoutée.
Je comprends. Aujourd'hui, on vit une période compliquée, tant sanitaire que économique. Comment les consommateurs se sont comportés aujourd'hui face à cette pandémie?
Alors, on peut faire deux constats. Le premier peut concerner notre clientèle, on va dire déjà fidélisée, ou en tout cas connaisseuse du concept, où là, on a noté une vraie frustration, pardon, doublée d'une vraie impatience de renouer avec ces magasins-là, parce que le propre de nos consommateurs, c'est de fréquenter très régulièrement les magasins. On en revient un petit peu à l'aspect ludique qu'on évoquait tout à l'heure. Chez nous, il y a des produits dont nous-mêmes ne soupçonnons pas l'existence qui arrivent au quotidien dans les magasins, tous les jours. Et ça suscite effectivement une récurrence de fréquentation très importante et du coup, bah, presque un manque pour la clientèle qui se déplace très régulièrement. Donc ça, c'est le premier constat par rapport à une clientèle déjà, on va dire, très connaisseuse. Et derrière, on a eu un deuxième constat avec cette période de pandémie difficile, c'est que ça a permis également d'accélérer une révélation pour d'autres consommateurs qui n'avaient pas encore forcément le mis le pied à l'étrier du marché de l'occasion. Alors, ils y ont d'abord vu un aspect évidemment intéressant par rapport à un pouvoir d'achat qui n'est pas forcément évident dans ces périodes. Mais ils ont pris aussi également le temps, hein. La pandémie a permis de passer du temps chez soi et d'être propice à certains tris. Et c'est également le temps de se poser les bonnes questions, donc et de notamment réfléchir à comment consommer de manière plus vertueuse. Et consommer d'occasion près de chez soi, bah, c'est une façon simple et quotidienne de consommer de manière vertueuse. Donc ça, c'est vraiment les deux constats qu'on a pu noter par rapport à ces deux profils de clients acquis ou pas encore acquis. Et puis avec effectivement des reprises à chaque fois qu'on déconfinait. Très rapide, sans aucune inertie, avec un vrai souhait de revenir dans ce magasin-là, dans ces magasins-là, sans attendre.
Je comprends. On le voit aujourd'hui, les enseignes du neuf se positionnent de plus en plus sur ce marché de la seconde main. N'avez-vous pas peur que cela vous fasse un peu d'ombre?
Alors, la peur, peut-être pas. En tout cas, évidemment, ça nous nécessite d'être plus vigilants que jamais. On ne va pas négliger ces concurrents-là, surtout pas. Mais bon, on a quand même analysé un petit peu la situation. Et bon, ce passage à l'acte d'enseigne plus traditionnelle est relativement tardif. Pour autant, l'occasion ne date pas d'hier. Le marché de l'occasion ne date pas d'hier. Mais c'est un vrai métier. C'est un métier à part entière, hein, qui nécessite d'avoir des outils très performants, très pointus, des outils nous qu'on développe depuis 20 ans. Donc entre les Argus, la maîtrise technique de tous les produits qu'on achète, il ne faut jamais oublier que nous on achète à la fois des produits sur des familles de produits très variées, mais également sur des générations de produits très variées. Et c'est un peu antinomique avec ce que pratiquent les enseignes du neuf traditionnel, où vous retrouvez des gammes de produits qui sont quand même assez serrées à une période donnée. Donc on est obligé effectivement d'avoir cette amplitude, on va dire, dans la culture produit qui est vraiment un atout, mais également on a des structures qui s'y prêtent. On a une capacité de réactivité et de souplesse dans nos magasins qui ne sont pas forcément le point fort des enseignes que vous évoquez. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de tentatives timides pendant ces 20 dernières années, mais souvent avortées par la grande distribution. La différence aujourd'hui, c'est que bah, il est impossible de passer à côté d'un mode de consommation qui s'est popularisé à ce point-là et de manière aussi durable surtout. Donc je pense que bon, l'intérêt évidemment pour ces enseignes, c'est de ne pas passer à côté de flux de consommateurs importants. Et c'est surtout ça plus que, on va dire, un modèle économique très rentable pour eux par rapport à leur ratio habituel. Donc ça, on va dire que c'est notre premier constat. Le deuxième, et il se situe vraiment sur un volet plus positif, c'est que ce coup de projecteur sur le marché de l'occasion, il a conduit, on le note aujourd'hui de manière exponentielle, à une multiplication de l'offre qui contribue également à sa popularité et à sa montée en puissance. Donc du coup, ça c'est un vrai effet vertueux. À une condition, c'est que nous, on tienne bien notre rang de pionnier expert, qu'on continue à se professionnaliser pour en proposer toujours plus que des enseignes qui jouent un peu plus au couteau suisse, et à nous de nous adapter à la demande. Donc, on est plutôt serein. On y voit un autre aspect effectivement très, très profitable, c'est que faut pas se voiler la face. Effectivement, la notoriété de la grande distribution et des enseignes plus généralistes dans le neuf fait que lorsqu'elles se jettent dans ce secteur-là, on en parle. Mais ça nous permet, nous aussi, qui avons parfois peut-être un petit déficit de notoriété locale, on a un taux de pénétration d'un marché local qui est relativement faible et pourtant nos magasins fonctionnent, de transformer des clients qui ne nous connaissaient pas en clients fidèles, parce que ils réalisent finalement qu'il y a une autre alternative locale. On a pas mal d'expériences locales de confrontation directe avec ces enseignes de la grande distribution. Et pour le coup, on continue à avoir un train d'avance. Et c'est ce qui nous pousse à être, on va dire, plutôt confiants par rapport à l'arrivée de ces acteurs. Faut reconnaître aussi qu'on a subi l'arrivée d'autres acteurs plutôt très costauds il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, avec les gros acteurs du numérique, hein, sans les citer, eBay, Le Bon Coin et Price Minister et d'autres, qui avaient aussi leurs atouts, une facilité en tout cas d'appréhension de la mise en relation. Mais je dirais que la mise en relation, c'est une chose, et après, l'aventure ne fait que commencer, puisque derrière, effectivement, il faut tenir la route sur toutes les garanties, le service après-vente et tout ce qu'on peut apporter, nous, en tant que magasin physique spécialisé.
Pouvez-vous me parler un peu du développement la plus spécifique de votre enseigne, où vous en êtes en termes de nombre de points de vente, de souhaits d'implantation, d'ouverture?
Bien sûr. Alors, au moment où on se parle, on est 130 magasins ouverts. On a ouvert sur l'année 2020, qui était un peu chahutée, évidemment, 7 magasins quand même. Aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, je suis en mesure de vous annoncer au moins une dizaine d'ouvertures sur 2021, pardon. Sachant qu'il n'y a pas eu d'abandon de projet par rapport à tous les prospects qu'on pouvait avoir dans les tuyaux. Il y a eu évidemment une petite temporisation avec les incertitudes liées au Covid, mais les gens n'ont pas du tout abandonné l'idée de se lancer dans l'entrepreneuriat, et encore moins dans le secteur de l'occasion. Ils ont simplement effectivement attendu que l'orage passe un peu. Donc on a eu on va dire un petit report là sur ces 2 années, mais on reste sur des cadences tout à fait prometteuses, avec un gros atout dans notre fonctionnement, c'est qu'on a la capacité aujourd'hui de s'implanter sur des zones dites de proximité qui recèlent un nombre de possibilités d'implantation très importantes, puisqu'aujourd'hui des villes de 15 000-20 000 habitants vont pouvoir nous suffire pour implanter un magasin Cash Express. Et notre objectif, c'est d'atteindre 150 magasins d'ici la fin 2022.
Entendu. Autre question, là aussi pratico-pratique, quelles sont les conditions financières pour pouvoir aujourd'hui intégrer votre réseau?
Alors, on a deux formats de magasins. Un dit standard, qui s'adresse plutôt à des grosses zones de chalandise et sur des formats de magasins plutôt confortables, de l'ordre de 300 mètres carrés. Donc là, c'est un droit d'entrée de 30 000 euros et des redevances de 1 300 euros en vitesse de croisière. Et à côté de ça, on a un format qui est celui qui représente le plus gros de notre développement aujourd'hui, qui est un format limité. Alors, qui peut s'appliquer soit lorsqu'on est sur un magasin de moins de 150 mètres carrés, quelle que soit la zone de chalandise. Donc, ça peut très bien être du centre-ville de grosses agglomérations, mais également du magasin de périphérie, on va dire de secteur plus rural. Mais également, on peut l'appliquer, ce format de proximité, lorsqu'on est sur une zone de chalandise de moins de 50 000 habitants, et là, on ne s'occupe plus de la taille du magasin. Donc, dans ce cas-là, on va avoir un droit d'entrée de 15 000 euros et des redevances de 1 000 euros en vitesse de croisière.
Est-ce qu'il y a un profil type du candidat chez vous ?
On n'a pas de profil type, on a quelques qualités, on va dire, prérequises, qui sont en particulier avoir le sens du commerce. Donc, ça paraît un peu large comme qualité requise, mais c'est bien une réalité. Donc, pas besoin d'avoir été commerçant préalablement, mais avoir cette logique, aimer les gens, évidemment. Le sens du management est une qualité également recherchée. Mais au-delà de ces qualités intrinsèques, nous, on attend surtout de nos futurs franchisés, c'est de la capacité à se remettre en question et à bien lâcher prise de manière consciente, hein, mais lâcher prise pour bien appréhender le concept et la recette qui a fait ses preuves pour assurer une réussite. Mais on a des gens aujourd'hui de tous les horizons qui nous rejoignent, qui ont pu être entrepreneurs avant, mais beaucoup d'anciens salariés aussi. Donc voilà, il n'y a pas de profil type plus précis que ça.
Entendu. Une question sur l'enseigne en elle-même. Qu'allez-vous chercher aujourd'hui à faire évoluer dans les prochaines années ?
Alors, dans les prochaines années, on va dire même dans les tout prochains mois, voire les prochaines semaines, la première chose qui va évoluer, c'est on va dire la charte graphique on va dire le parcours client dans nos magasins, qui vont fortement être impactés, puisqu'aujourd'hui on est sur une approche de la clientèle qui est d'un côté fortement décomplexée sur le côté revente. Donc on va plutôt mettre en scène cette partie revente qui est notre vraie expertise, pour bien montrer effectivement comment on accueille les produits, comment ils sont traités, et rassurer évidemment encore plus la clientèle sur cette traçabilité. Derrière ça, on va également adopter une esthétique un petit peu différente, on va dire très, très qualitative, sans être ostentatoire. Mais le plus gros défi, outre les magasins physiques, c'est la poursuite de notre stratégie de monter en puissance sur les canaux digitaux, tout en restant en synergie avec notre ADN de magasins physiques. Donc aujourd'hui, on disposait de la e-réservation, du click and collect, de la vente en ligne. Et bientôt, on va également disposer de l'estimation et de l'achat en ligne. Donc ça, c'est pour le sourcing, évidemment, produit à distance. Sans jamais oublier de privilégier effectivement une approche locale. Donc, dans cette stratégie digitale, on essaie toujours de ramener la clientèle au magasin le plus proche de chez elle, et de ne l'inviter à aller chercher plus loin que si vraiment le produit n'est pas disponible à proximité. Donc, c'est toujours dans le même souci d'une démarche à la fois écologique et économique.
Je comprends. Écoutez, Arnaud Guérin, je vous remercie pour toutes ces précisions. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, vous pouvez réécouter tous nos podcasts sur notre propre plateforme CDI Podcast, ainsi que sur toutes les autres plateformes Google, Apple ou bien encore Spotify.
Merci beaucoup.
Zoom Secteur.
Zoom Secteur.
Un podcast, l'officiel de la franchise.